clivage, c'est bon, tout le monde
tweet, filme tout,
en direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Wow.
9h40, l'instant M est de retour dans vos oreilles.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Pour une presse indépendante,
information numérique,
le nez sur l'écran.
Yves de Kerdrel est mon invité, bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Vous arrivez de Syrie, demain, en une de Valeurs Actuelles, dont vous êtes le directeur de la rédaction, une longue interview de Bachar el-Assad, obtenue en exclusivité mondiale, annoncez-vous. Alors comment l'avez-vous obtenue? Dans quelles conditions s'est déroulé cet entretien? France Inter a pu lire le texte avant sa parution. Nous revenons à la fois sur les déclarations choc du président syrien et sur la façon dont vous orientez vos questions. Elles en disent long en effet sur le positionnement idéologique de votre hebdomadaire. Avec nous également Jean Stern. Salut Jean.
Bonjour Sonia.
On ne peut pas dire que vous soyez un lecteur de Rivarol ou de Minute.
Certes non.
Il n'empêche, la réforme des aides à la presse vous fait bondir. Vous aussi, Yves de Kerdrel. Explication de texte.
L'instant M. L'actualité des médias sur France Inter.
Et dans l'actu, évidemment, un mot sur les chiffres d'audience radio publiés ce matin par Médiamétrie. Ils concernent la période de septembre et d'octobre et ne comprennent pas donc la couverture des événements qui se produisent à Paris depuis le week-end dernier. Avec 12% d'audience cumulée, Énergie redevient la première radio de France. Et France Inter s'avère la seule des stations généralistes à progresser. Vous êtes 5 443 000 auditeurs à nous écouter chaque jour, soit 149 000 de plus que l'année dernière. Ça représente 10,2% d'audience cumulée. Cela nous place derrière RTL qui est à 11,4, mais devant Europe 1 qui baisse avec 8,6%, France Bleu 7,3%, France Info et RMC qui sont à peu près au même niveau à 7,2%. Enfin, clin d'œil amical, vous l'avez entendu dans la bouche d'Augustin, aux auditeurs de l'Instant M, beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'à la rentrée dernière. Waouh, merci à vous tous. Voilà, Jean Stern, intention louable que celle de la ministre de la Culture et de la Communication, nous la nommons Fleur Pellerin. Il faut réformer les aides à la presse pour que des journaux à faibles ressources publicitaires bénéficient d'un meilleur soutien de l'État.
Oui, Sonia, intention d'autant plus louable que sont largement aidés les quotidiens nationaux, de droite comme de gauche, qui appartiennent pour la plupart à des milliardaires qui n'ont pas besoin d'argent public. Il en va de même avec les quotidiens régionaux qui vivent une vaste période de rachat et de concentration.
Voilà, ça signifie que derrière, il y a des groupes beaucoup, beaucoup plus puissants qu'auparavant.
Absolument. Il fallait donc réorienter les aides publiques vers des journaux d'opinion qui attirent peu la pub. Charlie Hebdo, Le Monde Diplo, le nouveau magazine Society, créé par des indépendants, ou bien par exemple le 1 d'Éric Fotorino.
Voilà, alors ça donne un décret, publié le 6 novembre, mais surprise, parce qu'on ne s'y attendait pas, le texte stipule qu'aucun titre condamné, je cite, pour incitation à la haine ou à la violence, les 5 dernières années, ne pourra bénéficier de ces subventions. Exit donc, Valeurs Actuelles par exemple, Minute et autres Rivarol.
Oui, et voilà qui est choquant, que l'on soit de gauche ou de droite, lecteur de Rivarol ou de Charlie. Je m'explique, la presse d'opinion ne peut pas seulement être une presse de gauche. La définition même du pluralisme, c'est la pluralité des idées. Alors oui, les unes de Minute me filent des hauts de cœur. Avec sa mesure, la ministre perd clairement une ligne de partage entre la bonne et la mauvaise presse. Depuis quand le gouvernement doit-il se mêler du contenu des journaux, se substituer au choix des lecteurs? Nous sommes dans une logique punitive, la ministre mélange les pouvoirs, elle s'arroge celui de la justice.
Ah bah oui, qui doivent normalement être clairement séparés. D'ailleurs, les tribunaux frappent régulièrement au portefeuille.
Absolument.
Puisque c'est de rétorsion financière qu'il s'agit. Jean-Marie Molitor, directeur de la rédaction de Minute, a été condamné à 10 000 euros d'amende fin 2014 pour incitation à la haine raciale à propos d'une couverture ignoble sur la ministre,
oui.
Christiane Taubira.
Christiane Taubira, absolument. Cela dit, bon, Minute et Rivarol sont des journaux qui ne se vendent pratiquement pas.
Vous avez des chiffres?
On n'en a pas, puisque l'OJD, qui est chargé de mesurer la diffusion de la presse écrite, ne mesure ni l'un ni l'autre. Il ne mérite donc pas l'honneur d'un couac gouvernemental. La ministre vise sans doute le journal autrement plus puissant de votre invité.
Yves de Kerdrel, combien est-ce que vous vendez aujourd'hui d'exemplaires avec Valeurs Actuelles?
130 000 exemplaires à la dernière déclaration de l'OJD.
C'est ça, parce que vous êtes mesuré par cet organisme.
Oui, voilà. C'est surtout que c'est 130 000 exemplaires, c'est le double de ce que nous vendions il y a 3 ans. C'est-à-dire que nous avons doublé en 3 ans. Et c'est pas simplement une puissance, parce qu'on est 130 000 exemplaires, on est le dernier des news magazines, mais on est celui qui se porte le mieux et qui affichons trimestre après trimestre.
La meilleure des progressions.
Des progressions.
Est-ce que je peux vous demander le chiffre de vos ventes en kiosque? Parce que 130 000, j'imagine que c'est vos ventes globales.
35 000 sur le dernier trimestre, c'est-à-dire plus que le nouvel observateur.
Qui s'appelle l'Obs maintenant, voilà. Avec depuis sa nouvelle formule. Alors, je rappelle que Valeurs Actuelles a été condamné le 5 mars dernier pour diffamation, provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les Roms. C'était votre une, Rome, l'overdose. Les juges notent, je cite, la répétition et la juxtaposition de termes censés descriptifs tels que fléau, overdose, plaie, invasion, tous évocateurs de maladies ou de catastrophes. C'était dans les arrêtés du jugement. Vous dénoncez un nouvel acte de censure. D'ailleurs, vous avez fait appel.
Cette condamnation n'est pas définitive.
Voilà. Autre condamnation, le 3 février, cette une avec la Marianne voilée, naturaliser l'invasion qu'on vous cache. Vous faites appel également. Vous êtes donc sorti de cette réforme des aides à la presse, pardonnez-moi, Yves de Kerdrel. Vous portez plainte et vous montez jusqu'à Bruxelles.
Oui, nous avons déposé lundi dernier, j'ai écrit une lettre à la commissaire, Madame Vestager, qui est la commissaire à la concurrence. Mm-hmm. J'attaque l'État français sur deux angles différents. Un, d'une part, à Bruxelles. Ça a été fait lundi par un courrier où je prends la question, non pas sous l'angle qui a été soulevé par votre chroniqueur, mais sous l'angle du fait que ces aides sont illégales sur le plan de la concurrence. Mm-hmm. Et la lettre a été rédigée par un avocat spécialiste en droit de la concurrence. J'ai un rendez-vous avec la commissaire européenne dans quelques jours pour lui expliquer. Et elle devra décider en urgence, puisque ces demandes d'aide doivent intervenir avant le 25 novembre. Donc mm-hmm. on est dans des délais extrêmement court, serré. Mm-hmm. Extrêmement court. Et elle va sans doute prendre une décision contre la France et contre ce décret dans les jours qui viennent.
Petite précision, vous n'êtes pas un journal indépendant, Yves de Kerdrel. Vous avez été racheté cet été par Iskandar Safa, qui est un millionnaire d'un autre genre que le groupe LVMH ou que le groupe Pinot.
Je reviens sur ces aides. Deuxième contre-offensive, puisque Madame Pellerin est plus davantage une ministre de l'inculture qu'une ministre de la culture, et donc elle a son décret et ne tient pas debout, puisque elle dit qu'un journal qui est condamné ne peut pas recevoir d'aide. Or, ce qu'elle oublie, c'est qu'en droit, ça n'est pas le journal qui est condamné, c'est le directeur de la publication qui est condamné.
Ouais.
Donc moi, dans 3 mois, je peux me retrouver à la tête
de l'Express
d'un autre journal, ouais. Et Valeurs Actuelles restera condamnée, ce qui est une aberration complète et qui a été déjà dénoncée, ce qui n'a pas empêché le décret d'être publié au journal officiel.
Et si vous vous retrouvez à la tête de l'Express ou de Minute ou de je ne sais quelle publication,
je pourrais recevoir des aides.
Voilà. D'accord.
Donc ça ne tient pas debout. Et donc nous allons attaquer dans les jours qui viennent au Conseil d'État ce décret pour abus de pouvoir.
D'accord. Voilà. Vous disposez néanmoins de nouveaux moyens financiers avec l'arrivée d'Iskandar Safa,
oui,
cet homme d'affaires libanais.
Et c'est le troisième point que je voulais souligner après la remarque tout à fait judicieuse
de
que vous avez dite sur le fait que la presse était détenue par des gens qui ne manquent pas de moyens. Valeurs Actuelles est le seul des hebdomadaires qui va afficher cette année des bénéfices. Par ailleurs, vous connaissez la ligne idéologique de Valeurs Actuelles, notamment sur le plan économique, et ma ligne propre également à travers les chroniques que je fais chaque semaine dans le Figaro. Je suis quelqu'un de libéral qui prône depuis des années, et également lorsque j'étais membre de la commission Attali, la réduction des dépenses publiques. On ne peut pas à la fois prôner la réduction des dépenses publiques
et réclamer
des subventions. Donc ces plaintes, je les fais pour le principe, parce que je considère que cette discrimination, comme vous l'avez dit, est absolument, ces discriminations sont absolument absurdes au nom du pluralisme. On ne peut pas à la fois défendre le pluralisme et être discriminatoire, mais je ne demanderai pas un euro de subvention. Nous ne touchons à l'heure actuelle pas un euro d'aide publique, et je ne demanderai pas un euro d'aide publique.
Voilà, Yves de Kerdrel, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, je vous propose de passer à ce très long entretien que vous a accordé le président Bachar el-Assad en Syrie samedi matin.
Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Je voudrais présenter mes condoléances aux familles françaises qui ont perdu un être cher.
And we are the
Nous sommes les mieux placés pour comprendre ce qui s'est passé hier en France. Parce que nous souffrons de la même menace terroriste depuis 5 ans en Syrie.
25 secondes de déclaration du président syrien samedi matin, une réaction diffusée sur les antennes de TF1 et d'Europe 1 qui étaient présents à Damas ce matin-là. Valeurs Actuelles a donc obtenu, si j'ai bien compris, ce que d'autres médias français se sont vus catégoriquement refuser, Yves de Kerdrel.
Tout à fait.
Comment ça s'est passé ?
Non, c'est simplement que ça fait un an, personnellement, que je travaille pour avoir cette interview de Bachar al-Assad. J'ai rencontré à plusieurs reprises, au moins une dizaine de reprises à Paris, des émissaires syriens qui sont venus vérifier dans quel but nous voulions faire cette interview, etc. On a créé des relations de confiance progressivement, et ces relations de confiance avec les ministres délégués à l'information, le ministre délégué aux affaires étrangères, etc.
Mais ça signifie quoi, Yves de Kerdrel ? Ça veut dire que la porte s'est refermée devant TF1 Europe 1, que vous êtes entré, que vous êtes resté tête-à-tête avec le président syrien.
Mais il n'y a rien d'anormal. Il y a certains pays avec des coutumes, avec des usages, où il faut tisser des relations de confiance. Georges Malbruno, mon confrère du Figaro, a dû quelquefois, venir 2 ans de suite sans avoir d'interview, avant d'avoir une interview. Il faut créer.
Évidemment, est-ce que votre interview a un lien avec la venue de 5 députés de droite à Damas récemment, Thierry Mariani, Nicolas Dhuic, Yannick Moreau, Michel Voisin et Jean Lassalle ?
Elle n'a de lien que logistique, c'est-à-dire que nous avons fait partie de la même délégation, mais elle n'avait pas de lien. Monsieur Mariani n'a pas assisté à l'interview et il est resté dans la porte.
Thierry Mariani la diplomatie russe, etc., n'ont rien à voir.
Aucun.
Et par ailleurs, les liens de Nicolas Dhuic, on va dire avec une frange de la droite chrétienne, n'a rien à voir avec votre venue, les questions que vous avez passées et l'organisation de cette interview. Est-ce que le fait que vous ayez été racheté par Iskandar Safa, qui est un homme d'affaires libanais, il est de confession chrétienne, il est de confession maronite.
Oui, c'est un chrétien maronite qui construit même des églises en France, oui.
Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de réseaux au Moyen-Orient. Il était à la pointe à l'époque de Charles Pasqua et notamment il avait joué un rôle clé dans la libération des otages au Liban. Est-ce qu'il a servi d'intermédiaire ? Est-ce que sa venue dans le capital de Valeurs Actuelles a jouer un rôle ?
En aucune manière. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé les discussions avec les émissaires de Bachar al-Assad en novembre de l'année dernière. Iskandar Safa a commencé à négocier le rachat de Valeurs Actuelles en avril dernier. Donc ça n'a rien eu à voir.
Est-ce que le président syrien a exigé à l'avance vos questions, Yves de Kerdrel ?
À aucun moment.
Comment expliquer que vous ne posez pas une seule question dans le texte que vous m'avez remis dès hier soir sur les victimes du régime El-Assad en Syrie ? Pas une seule question.
Parce que c'était pas dans cet état d'esprit qu'on y allait. On y allait pour prévu avec André Berkoff de poser la question.
André Berkoff qui a rejoint Valeurs Actuelles et qui était à vos côtés.
On avait prévu effectivement de poser la question. Mm-hmm. Il se trouve que au moment où s'est passée l'interview, c'est-à-dire samedi à 9h du matin, il y avait eu l'attentat qui avait eu lieu au Bataclan à Paris. Et toute l'interview a été principalement centrée sur le terrorisme et le moyen de lutter contre le terrorisme.
On retrouve d'ailleurs les positions que vous défendez depuis longtemps, notamment il faut changer la politique étrangère de la France. Voilà quelque chose qui est martelé du début à la fin de l'interview. Le président Bachar el-Assad souhaite que la France rompe avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, Yves de Kerdrel.
Oui, il dit clairement le Qatar et l'Arabie Saoudite arment et financent des factions comme Al-Nusra et même Daesh qui sont des terroristes en Syrie, mais qui sont aussi des terroristes en France. Donc, pour premier point, c'est aberrant. Nous sommes un régime civilisé, les femmes ont le droit de conduire, nous sommes un régime laïque, nous sommes un régime, le Qatar et l'Arabie Saoudite.
La France peut-elle établir de bonnes relations et des liens d'amitié avec les pires États du monde, les plus sous-développés, tels l'Arabie Saoudite et le Qatar ? Que le peuple français a-t-il gagné à cette politique ? Rien. Vous lui demandez aussi aussi dans l'avenir.
Et entre nous, pour nous, à Valeurs Actuelles, c'est une préoccupation que nous avons depuis longtemps. Nous écrivons depuis longtemps que les relations malsaines et consanguines qui ont commencé à être établies sous le régime de Nicolas Sarkozy avec le Qatar sont...
Sarkozy que vous avez pourtant ardemment défendu par ailleurs.
On donne la parole à Nicolas Sarkozy, on ne défend personne, mais en tout cas, sont extrêmement malsaines.
D'ailleurs, vous posez la question, et si le gouvernement changeait, est-ce qu'une meilleure relation entre la France et la Syrie serait possible? Bachar el-Assad refuse d'aller sur votre terrain, il le dit. Il n'y a pas de place pour moi, ni pour l'amitié, ni pour l'émotion. Exactement. Ce n'est pas une affaire d'homme. Mais vous voulez le conduire vers là, c'est-à-dire si Hollande saute.
Oui, mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on a vu depuis 48 heures. C'est-à-dire qu'avec le discours au Congrès de François Hollande et hier, l'initiative qui a été prise par François Hollande de faire comme Barack Obama l'a fait le week-end dernier, c'est-à-dire de reprendre contact avec Vladimir Poutine pour effectivement créer une seule coalition et comme le dit également François Fillon dans Valeurs Actuelles cette semaine, de créer une seule coalition avec la Russie et qui intégrerait la Syrie, parce que François Hollande a bien dit, maintenant on ne peut plus être sur le ni-ni, c'est-à-dire ni Daesh, ni la Syrie, notre ennemi c'est Daesh, ça n'est pas la Syrie.
D'ailleurs vous posez une question très surprenante sur Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est-il le dernier chef d'État à défendre la chrétienté occidentale?
Oui, tout à fait.
Pourquoi peut-être formuler cette question de la sorte?
Parce que nous, ça fait partie des valeurs. Notre journal défend un certain nombre de valeurs, dont notamment des valeurs qui intègrent les valeurs judéo-chrétiennes auxquelles nous sommes très attachés. Nous regrettons beaucoup que dans le projet de constitution européenne, il n'ait pas été intégré, comme Valéry Giscard d'Estaing avait souhaité le faire, le terme des racines chrétiennes de l'Europe. Et nous pensons que effectivement, nous avons plus à voir avec un Vladimir Poutine qui défend ses valeurs chrétiennes et que avec un Barack Obama qui a largué l'Europe.
Yves de Kerdrel, vous demandez à Bachar el-Assad s'il est prêt à renoncer au pouvoir. Il vous répond que des élections vont avoir lieu, que seules les urnes et que seuls les Syriens peuvent en décider, sûrement pas une nation étrangère. Là aussi, pas une question sur les conditions du processus démocratique en Syrie.
Pas du tout. Nous lui demandons s'il est prêt à recevoir des observateurs internationaux pour les élections. Il dit qu'il est tout à fait prêt, à condition que ce ne soit pas les Nations Unies. Puisqu'il a un certain nombre de doutes sur les Nations Unies, ce qui est assez normal, étant donné que deux jours avant l'interview, un attentat avait eu lieu à Beyrouth, un attentat sanglant, dans lequel étaient parmi les trois assassins était un membre des Nations Unies. C'est quand même gênant.
Sur la Turquie, là aussi, on retrouve les combats que vous menez depuis longtemps. Vos unes sur l'islam ont été très nombreuses et toujours très virulentes. La Turquie, porte d'entrée et plaque tournante à la fois de l'entrée des réfugiés vers l'Europe et en même temps de la circulation des islamistes. La réponse de Bachar el-Assad est très claire. C'est le pays qui joue le rôle le plus dangereux dans cette situation de crise aujourd'hui.
Tout à fait. Et Bachar el-Assad m'a remis un papier. Il m'a dit diffusez-le en France et nous allons effectivement le diffuser. Un papier qui montre que le Conseil européen qui a établi des sanctions à l'égard de la Syrie tourne au ralenti. J'ai rencontré les patrons locaux. Il y a des sanctions sur toute la Syrie. En revanche, le Conseil européen autorise formellement l'achat par la Turquie de tout le pétrole vendu par Daesh.
Que les choses soient...
Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que le pétrole vendu par les terroristes de Daesh à partir des puits de pétrole pris en Syrie et en Irak peut être vendu à la Syrie, à la Turquie, de manière tout à fait légale.
Alors, indépendamment de cette interview de Bachar el-Assad, le temps nous est compté, donc on ne peut plus en parler, Yves de Kerdrel, mais on peut souligner peut-être que jeudi matin, vous publiez également l'interview de Bernard Squarcini, qui est l'ancien patron des services secrets.
Et qui fait une révélation qui est susceptible de faire sauter, effectivement, un certain nombre de personnes en France. Il révèle que les services secrets syriens sont venus il y a 2 ans lui proposer la liste de tous les djihadistes français opérant en Syrie. Bernard Squarcini s'est tourné vers son homologue français qui a dit effectivement ça m'intéresse mais il faut que je réfère au Premier ministre Manuel Valls. Manuel Valls a dit pas question, Nous n'échangeons pas de renseignements avec un régime tel que la Syrie.
Ce sont les déclarations les propos de Bernard Squassini, publiés dans Le Valeurs Actuelles de jeudi.